SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Vous êtes en compagnie de Bertrand Tunganamé pour une heure d'émission en français. Au sommaire de ce programme, Christophe Mallet sera en conversation avec Marion Nouvel pour nous présenter les activités de l'Alliance française de Melbourne à Bendigo. Et comme tous les mardis, notre projecteur sur la politique en Australie avec Patricia Meunier et Léo Roussel nous amènera à la redécouverte du Petit Théâtre qui revient sur scène à Sydney après une absence de 3 ans. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce mardi 7 mai 2024. Deux commissions du Sénat doivent rendre leurs conclusions sur la surfacturation dans les supermarchés et un projet de loi controversé sur l'expulsion des étrangers. Le présentateur et écrivain français Bernard Pivot est mort hier à Paris à l'âge de 89 ans. Et les habitants de la ville de Rafah, à Gaza, réagissent aux nouvelles frappes après des espoirs de cessez-le-feu. Une enquête parlementaire sur la hausse abusive des prix par les supermarchés devrait rendre ses conclusions ce mardi 7 mai. La commission sénatoriale s'est penchée sur le pouvoir de marché du duopole des supermarchés Coles et Woolworths et ses pratiques de fixation de prix. Elle a examiné les allégations d'inflation des prix et de pression à la baisse exercées sur les fournisseurs et les producteurs. Les producteurs ont déclaré à la commission que de nombreux acteurs du secteur craignaient de s'exprimer contre les pratiques des chaînes de supermarchés de peur de perdre des contrats. La commission a interrogé la directrice générale de Coles, Leah Weckert, et le patron sortant de Woolworths, Brad Banducci. Ce dernier a été menacé de prison pour outrage au Sénat pour ne pas avoir répondu aux questions sur la rentabilité du supermarché. Une commission sénatoriale a examiné un projet de loi controversé qui menace les non-citoyens de prison s'ils refusent de coopérer à leur expulsion. Une commission du Sénat devrait rendre ses conclusions sur la législation travailliste ce mardi 7 mai et cette nouvelle loi permettrait au gouvernement d'interdire l'entrée en Australie des personnes originaires des pays qui refusent de reprendre leurs citoyens expulsés. Les étrangers qui ne se conforment pas à leur expulsion d'Australie seraient passibles d'une peine minimale obligatoire de 12 mois de prison. Les communautés de la diaspora, les défenseurs des réfugiés et les Verts ont critiqué cette législation, et une enquête ayant révélé que des personnes pourraient être rassemblées et expulsées. Les défenseurs des droits des femmes dénoncent l'insuffisance des paiements pour les victimes des violences domestiques. Les défenseurs des droits des femmes, qui demandent la fin des violences domestiques contre les femmes, affirment que le paiement unique de 1 500 $ récemment annoncé par le gouvernement fédéral pour les victimes des violences domestiques est insuffisant. Plus de 200 défenseurs des droits des femmes ont signé une lettre demandant une augmentation des paiements de Centrelink pour aider à lutter contre les problèmes d'insécurité financière dans les relations violentes. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de crise croissante de la violence contre les femmes en Australie et les dirigeants des États et du gouvernement fédéral étant confrontés à une pression croissante pour agir. La commissaire à la discrimination sexuelle du Conseil australien des services sociaux, ACOS, Anna Cordy, a déclaré à SBS que le financement insuffisant pouvait maintenir les femmes piégées dans des relations abusives.
So I think what it does is it traps both particularly younger women and older women in violent relationships if they don't have something which provides a dignified and survivable rate of payment, which is what we've been calling for in that letter that has been initiated by ACOS.
Et Bernard Pivot, incarnation pendant plusieurs décennies de la littérature à la télévision, l'animateur du mythique Apostrophe, qui présida également l'Académie Goncourt entre 2014 et 2019, est mort ce lundi 6 mai à 89 ans. Portrait de l'homme qui aurait fait des millions de qui aurait fait lire des millions de Français avec Sophie Dorlotin pour RFI.
Animateur, écrivain, président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot se définissait avant tout comme un journaliste. Ce natif du Beaujolais, amateur de vin et de football, commence sa carrière au Figaro littéraire en 1958. Il exercera sa plume de critique dans différents titres de presse écrite avant de créer l'émission Apostrophe, diffusée pour la première fois en janvier 1975. Malicieux et cultivé, sans être poseur, Bernard Pivot donne la parole aux géants de la littérature de son temps, toujours un livre à la main, et sa paire de lunettes dans l'autre. Dans ce salon phare du service public, diffusé en direct le vendredi soir, on y découvre Solzhenitsyn, Marguerite Duras, mais aussi Françoise Sagan, Patrick Modiano, Umberto Eco. Certaines séquences sont restées cultes, pour le meilleur et parfois pour le pire, comme celle redécouverte récemment, où on le voit écouter avec complaisance les récits pédocriminels de Gabriel Matzneff. Après Apostrophe, qui s'arrête en 1990, puis Bouillon de culture, l'infatigable amour des livres lance un championnat d'orthographe, les Dicodores. Aussi, sa plus grande fierté, plus encore que d'être le premier journaliste à intégrer l'Académie Goncourt, c'est son entrée dans le dictionnaire Larousse.
Et plusieurs personnalités ont déjà réagi au décès de Bernard Pivot sur les réseaux sociaux, notamment Tahar Benjelloum, l'écrivain franco-marocain, a fait partie de l'Académie Goncourt avec Bernard Pivot, a été plusieurs fois son invité dans la célèbre émission Apostrophe.
D'abord, c'est un très grand bonhomme, d'une grande simplicité, une grande discrétion, d'une grande humilité aussi. Quelqu'un qui a su comment faire lire les Français, comment les faire aimer la littérature. Il rendait populaire ce qui était parfois inaccessible. Et donc, c'est un monsieur qui a passé sa vie à donner du plaisir de lecture à des millions de gens. Et il y a plusieurs générations qui ont découvert les livres et la lecture grâce à lui. Et puis, bon, il n'était pas que cela, il était aussi un homme qui aimait bien boire, bien manger, qui aimait le football, qui aimait le bon vin. Il a écrit un remarquable dictionnaire amoureux du vin. Et alors, sur le football, il était imbattable, il connaissait toutes les grandes équipes et tout. Et c'était un homme vivant, un bon vivant, comme on dit dans le vrai sens du mot. Et en même temps, un homme d'une grande curiosité pour tout. Et il demandait à savoir, à lire, à écrire. Et c'était pas quelqu'un qui avait des jugements préconçus.
On reste en France où le président chinois Xi Jinping a été accueilli au Palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron pour une réunion trilatérale à laquelle participait également la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les trois interlocuteurs se sont entretenus sur les relations commerciales entre l'UE et la Chine et la question russe était également à l'ordre du jour. En introduction, le président français a souligné que l'état du monde exigeait aux trois parties de s'entretenir.
La situation internationale.
The international situation very clearly requires more than ever this Euro-Chinese dialogue. And as I said recently while talking about Europe, we are at a turning point of our history, which forces us to face and overcome structural difficulties.
Après Paris, M. Xi Jinping prévoit également de se rendre à Belgrade et Budapest dans le cadre de sa tournée européenne. Les habitants de Rafah, dans le sud de Gaza, ont réagi au rejet par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou des termes d'un accord de cessez-le-feu avec le Hamas et à sa déclaration qu'il maintient sa décision d'envahir le sud de l'enclave. Cela fait suite à des informations antérieures selon lesquelles le Hamas aurait accepté une proposition de cessez-le-feu à Gaza négociée avec des médiateurs égyptiens et qatariens. M. Netanyahou a déclaré que la proposition acceptée par le Hamas était une version adoucie d'une proposition égyptienne qui comprenait des conditions qu'Israël ne pouvait pas accepter. Il dit qu'une délégation israélienne sera envoyée au pourparlers pour négocier, mais que leur armée poursuivra entre-temps une escalade des attaques contre Rafah. Israël affirme qu'il frappe actuellement des cibles du Hamas dans l'est de Rafah, où ils avaient demandé aux civils d'évacuer depuis hier. Mais les habitants de Rafah affirment qu'il n'y a aucun endroit où se réfugier.
Now they are saying to evacuate from Rafah. Where should we go? Khan Yunis is ruined. What is left? They ruined our lives. There is nothing left. There is no safety and no home. There is no one but our God.
Et le Tchad a organisé des élections présidentielles tant attendues après 3 ans de règne militaire sous la présidence par intérim de Mahamat Debi-Itno. Bien que les analystes estiment que le président par intérim est susceptible de remporter l'élection, rien n'est moins sûr dans ce scrutin émaillé par des incidents. Carole Valade pour RFI.
Au petit matin, la chaleur est encore supportable à N'Djamena. Pourtant, les électeurs ne se sont pas pressés pour aller aux urnes. De nombreux bureaux ont ouvert avec du retard, mais Saleh Bensani, chroniqueur sportif, reste optimiste.
Il est très tôt et il n'y a pas assez de monde. Et certains bureaux ne sont pas ouverts encore, donc on est en train de mettre encore des dispositifs. Mais je pense que d'ici 30-45 minutes, ça va commencer.
Gauthier Diomba prédit pourtant une forte participation.
Durant les campagnes, vous avez vu les candidats, chacun a présenté ses projets et vous avez vu comment les gens étaient sortis pour les campagnes et autres. Donc ça dit qu'il y a quelque chose qui se pointe déjà.
Tout au long de la journée, divers incidents, le plus souvent liés à un manque de matériel électoral, défaut de liste ou encore manque de bulletins, alimentent un climat de suspicion.
On veut que l'élection soit crédible et normale dans le bon sens. On peut se rassurer de rien, toujours, on a été victime de beaucoup de choses.
On ne fait confiance à personne, il faut être là pour voir les procès-verbaux et le score des candidats, c'est ça.
Une plateforme regroupant plusieurs organisations reconnues de la société civile et qui prévoyait de déployer 2900 observateurs s'est vue refuser son accréditation. Nombre d'électeurs ont donc décidé d'assister en personne au dépouillement du scrutin.
Et à présent, un coup d'œil météo à travers les principales villes d'Australie. 25 degrés à Perth, 23 à Adélaïde, 17 degrés à Melbourne, Hobart et Canberra, 19 à Wollongong, 21 à Sydney, 22 à Newcastle, 25 à Brisbane, 29 degrés à Cairns et 33 degrés à Darwin. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. Deux commissions du Sénat doivent rendre leurs conclusions sur la surfacturation dans les supermarchés, un projet de loi controversé sur l'expulsion des étrangers. Le présentateur et écrivain français Bernard Pivot est mort hier à Paris à l'âge de 89 ans. Et les habitants de la ville de Rafah à Gaza réagissent aux nouvelles frappes après des espoirs de cessez-le-feu. Treize heures, treize minutes, vingt-sept secondes sur les antennes de Radio SBS. Place à présent au magazine des sports de Christophe Mallet.
Journal des sports, et on débute avec du football et la Ligue Europa se jouait ce week-end. La première demi-finale de cette Ligue Europa voyait Marseille recevoir l'Atalanta de Bergame. Match nul, un partout, les Marseillais peuvent être déçus, Victor Misisrano.
Malgré une belle prestation et davantage d'occasions, l'OM n'a pas réussi à remporter la première manche. Match nul, un partout face à l'Atalanta Bergame dans la chaude ambiance du stade Vélodrome. Ouverture du score italienne par Gianluca Scamacca et c'est le Congolais Chancel Mbemba qui a égalisé d'une surprenante frappe lointaine. Écoutez le sentiment du capitaine des Léopards de RDC après la rencontre.
Dommage, mais c'est passé. Le plus important, je dis merci à nos supporters parce qu'aujourd'hui, on a vu encore Vélodrome vibrer et nous, sur le terrain, on a donné à fond parce qu'on a bien géré notre match. Il y en a les séquences, on a bien fait, on a donné notre match. Je veux dire à tous les supporters, tout est possible. On va partir là-bas à la guerre. Les bagarres, c'est pas terminé d'abord. On va mouiller notre maillot, on va pousser jusqu'à la fin.
Chancel Mbemba au micro RFI de Thomas de Saint-Léger. Tout reste à faire donc avant le match retour jeudi prochain en Italie. Dans l'autre demi, le Bayer Leverkusen a déjà un pied en finale. Le futur champion d'Allemagne a enchaîné un 47e match consécutif sans défaite. Victoire 2-0 sur la pelouse de l'AS Rome avec des buts de l'ailier Florian Wirtz et du milieu Robert Andri.
Voilà donc pour la Ligue Europa. On parle maintenant du championnat, la Ligue 1 en France et les matchs de la 32e journée. Montpellier a battu Toulouse sur le score de 2-1. Le Havre bat Strasbourg sur le score de 3-1. Monaco bat Clermont-Ferrand sur le score de 4-1. Rennes bat Metz sur le score de 3-2. Match nul entre Brest et Nantes sur le score de 0-0. Et Lens, qui était dans une passe un peu difficile, bat Lorient sur le score de 2-0. D'ailleurs, on écoute l'entraîneur lensois, Franck Hayes.
En tout cas, l'atmosphère entre nous, celle que je vois tous les jours dans mon vestiaire, avec mon staff, dans mon groupe, elle est pas lourde. Nous, la vie de groupe, elle est très bonne. Les entraînements, ça fait, je vous l'ai dit, ça fait 3-4 semaines que ça bosse bien avec entrain, qu'on se prépare au mieux pour les 3 derniers matchs et les 2 dernières semaines pour faire le meilleur résultat possible. Après, est-ce qu'on sera 6e ou 9e? Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai envie qu'on donne le maximum. Prenons le plus de plaisir possible jusqu'au bout, donnons le maximum et puis on fera les comptes le 19 à 23h.
L'entraîneur lensois, donc, qui ne perd pas confiance quant à savoir s'ils arriveront à accéder une place européenne ou pas. Un autre match, celui de Lyon contre Lille. Lyon qui revient vraiment très fort en cette fin de saison. Le score 4-3 pour les Lyonnais. Et on écoute l'entraîneur lillois qui ne tarit pas d'hommage pour son adversaire du soir, le club de Lyon.
Pour moi, c'est pas une surprise. Parce que je pense qu'ils ont de meilleurs joueurs que nous avons ici à France. Ils ont les meilleures équipes pour moi. Est vrai qu'ils ont fait un grand investissement en janvier et ils ont progressé beaucoup avec cet entraîneur. C'est magnifique qu'est-ce qu'ils ont fait après l'entrée de cet entraîneur.
Voilà donc pour les matchs de cette 32e journée, les matchs qui ont été joués au tableau, au final, au classement général de cette Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est champion, on le sait, donc premier avec 70 points. Deuxième, Monaco. Troisième, Brest. Quatrième, Lille. Cinquième, Nice. En bas de classement, Metz est 16e, Lorient est 17e et Clermont-Foot qui ferme la marche, lanterne rouge de ce championnat avec 25 points. Et direction maintenant l'Angleterre et la Premier League, les résultats avec Antoine Grenier.
Troisième du championnat, les Reds ont battu Tottenham 4-2 dimanche pour l'avant-dernier match de Jurgen Klopp à Anfield Road. Liverpool continue d'espérer dans cette fin de saison malgré ses 5 points de retard sur le leader Arsenal. Leurs chances sont minces, mais les Reds font le spectacle à 2 semaines de la der de Klopp à domicile le 19 mai contre Wolverhampton. Parmi les buteurs de la rencontre, le néerlandais Cody Gakpo, très content du match contre les Spurs.
Je pense que nous avons vécu plusieurs semaines difficiles. Les résultats n'étaient pas ceux espérés par l'équipe. Donc gagner à domicile contre Tottenham fait énormément de bien. On aurait pu marquer plus de buts et en encaisser moins, mais bon, c'est un bon résultat pour nous. Vous savez, toute l'équipe voulait faire de son mieux ces dernières semaines, mais parfois, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Mais aujourd'hui, on s'est rattrapé avec ce grand match à la maison. On est allé sur le terrain avec la bonne mentalité, on a profité, on a joué les uns pour les autres, on a attaqué et défendu ensemble. C'est un très bon résultat.
Voilà donc pour l'Angleterre et d'ailleurs voilà donc pour le football dans ce journal des sports. Allez, petit détour par le cyclisme, la 3e étape du Giro du Tour d'Italie. C'était hier soir sur SBS et la victoire du Belge Tim Merlier. On écoute son interview après sa victoire.
Tim, you have won many races, you have won a stage of the Giro d'Italia before, but this one, how hard was it because of Mr. Pogacar?
It was the hardest victory so far. Yeah, it was really hard final. We came back, but in the last kilometer, I never find good the slipstream anymore. So it was like always in the wind, and I saw 300 meters, and I say you need to go. And so also Milan was starting his sprint on the left side, and then I know I'm gonna be first or second, and I'm happy I win this one.
Voilà donc le Belge Tim Merlier, vous l'aurez compris, le leader de ce Giro, c'est toujours Tadej Pogacar, le Slovène. Le Giro que vous pouvez suivre tous les soirs à l'antenne de SBS à la télévision. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. A tout de suite. Et c'était Les Innocents qui nous interprétaient Un homme extraordinaire. Et cette chanson Un homme extraordinaire est extrait de leur album Fou allié. Nous allons passer à une courte pause, mais restez avec nous parce que quand nous, donc juste après la pause, nous allons passer à l'actualité politique en Australie avec Patricia Meunier.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'est mardi, c'est l'heure de notre chronique politique avec Patricia Meunier. Cette semaine, eh bien, le Premier ministre australien Anthony Albanese qui a qualifié mercredi dernier les violences faites aux femmes de fléau. L'ampleur de la crise est nationale. Des manifestations contre toute forme de violence se sont succédées dans plusieurs grandes villes du pays ces derniers jours. Les explications donc de Patricia Meunier.
Trop c'est trop. L'Australie a levé le ton contre les violences féminines. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a déclaré mercredi dernier que les violences faites aux femmes constituent un fléau. On parle désormais de crise nationale. Les chiffres sont accablants. Depuis le début de l'année, 28 femmes victimes de violences sont mortes dans le pays, soit en moyenne un décès tous les 4 jours. La semaine dernière, des victimes de violences et des membres de structures qui leur viennent en aide ont manifesté à travers tout le continent pour réclamer des lois plus strictes. On écoute le Premier ministre Anthony Albanese.
This is indeed a national crisis and it's a national challenge. And we're facing this with the spirit of national unity. Today is about who we are as a nation and as a society.
Pour contenir cette crise, Anthony Albanese a rencontré les premières des différents États du pays. Ensemble, ils ont travaillé sur une série de mesures et de financements pour lutter contre ce fléau. Ils se sont particulièrement penchés contre les opinions extrémistes, masculines toxiques, la pornographie et les deepfakes, des images fausses créées par l'intelligence artificielle affichant des contenus pornographiques. Pour sa part, le premier du Queensland, Stephen Miles, a salué le consensus existant sur la nécessité d'améliorer le système de réponse pour réduire le nombre de victimes de violences domestiques. Parmi les suggestions, une surveillance des individus à haut risque et des récidivistes. On l'écoute.
This is a national problem that requires solutions at every level of government. And it's important symbolically that the leaders of our country are united in our determination to eliminate violence against women, to eliminate domestic, family and sexual violence.
Le Premier ministre australien a également annoncé un financement de 925 millions de dollars sur 5 ans pour venir en aide aux personnes qui fuient des situations violentes.
The government will invest $925 million over 5 years will be included in the budget in 2 weeks' time to permanently establish the Leaving Violence program so that those escaping violence can receive financial support, safety assessments and referrals to support pathways. Those eligible will be able to access up to $5,000 in financial support along with referral services, risk assessments and safety planning.
Dans la foulée, le gouvernement a également publié un plan pour réduire l'accès des enfants à la pornographie en ligne et aussi pour lutter contre la misogynie sur Internet. Michaela Cronin est la commissaire en charge des violences domestiques, familiales et sexuelles pour le Commonwealth.
We have a national plan, which is a very good national plan, but no plan in such a complex area can be a set and forget plan. We need to be constantly looking at what is emerging and changing, and absolutely technology changes are part of that, and we need to be looking at what do we need to prioritize.
Les craintes demeurent pour certains qui craignent que ces engagements ne soient pas suffisants. Sue Webeck est la responsable du service de crise contre la violence domestique à Canberra.
I'm nervous that this is a great announceable that is not going to have the depth of impact that we would hope to see across our community. I'm worried about how we support the community in the model of service delivery that we're funded to support their applications through to EVP and how we manage that. It's not exactly what we were hoping for.
S'il s'agit certes d'un pas dans la bonne direction, il reste encore du travail avant que ce problème ne soit éradiqué. Car pour l'heure, une femme sur quatre subira une forme de violence dans sa vie. Les taux de violence domestique en Australie sont inférieurs à la moyenne de l'OCDE. L'Argentine, la Turquie et les États-Unis figurent parmi les plus mauvais élèves, selon des données de 2019.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Et c'était Paris Metek par Gaël Fay. Vraiment un splendide hommage à Paris et à tous ceux qui y vivent, qui l'ont visité ou qui en rêvent. Passe à présent à une autre pause et après la pause, nous allons découvrir les activités de l'Alliance française de Melbourne à Bendigo.
Allez, dans le programme aujourd'hui, on va parler des activités, alors non pas de l'Alliance française de Melbourne, mais de l'Alliance française de Bendigo, mais il y a un lien. On est avec Marion Nouvelle. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors, il y a un lien entre l'Alliance française de Melbourne et l'Alliance française de Bendigo. Ce lien, bah, c'est vous, en fait, au final.
Oui, en fait, il n'y a pas vraiment d'Alliance française de Bendigo. C'est moi, l'Alliance française de Bendigo. C'est l'Alliance française de Melbourne. Et étant donné que j'ai déménagé à Bendigo il y a 2 ans, c'était l'occasion de développer les projets de l'Alliance française de Melbourne à Bendigo et dans la région.
Alors, on parle là aujourd'hui de ce qui se passe à Bendigo, mais on va élargir bien sûr sur ce qui se passe sur Melbourne et le Victoria, mais c'est important Bendigo en ce moment, en tout cas pour vos activités, puisqu'il y a cette exposition sur la Belle Époque dont on a déjà parlé dans le programme. D'ailleurs, il y a une interview avec la conservatrice de cette exposition à voir sur notre site internet. Mais vous, à l'Alliance française, donc de Melbourne/Bendigo, vous avez des activités autour de cette exposition.
Tout à fait, donc on est partenaire de l'exposition. Et j'ai travaillé avec eux d'abord pour développer des activités à la fois pour les professeurs de français du Victoria et leurs élèves. Et donc, par exemple, le 20 avril, on organise une session de développement professionnel pour les professeurs du Victoria à la galerie, ou juste à côté, de Bendigo, pour parler de la Belle Époque et comment faire entrer la Belle Époque en classe de français. Et ensuite, les professeurs peuvent aller eux-mêmes visiter l'exposition ou amener leurs élèves pour visiter cette exposition. Et j'ai créé également un livret d'accompagnement que les élèves peuvent utiliser pendant qu'ils visitent l'exposition.
Et à quel point c'est important justement de... parce que c'est vrai que la Belle Époque, bon, ça englobe beaucoup de choses, hein, mais c'est un moment dit quand même dans l'histoire française. Mais à quel point c'est important de, en gros, de recadrer justement cette époque pour les étudiants.
Mais c'est vrai que c'est une période à la fois qui est très importante, que les gens connaissent en général de nom, quand on dit la Belle Époque, on connaît, mais les élèves de français, en général, savent très peu de choses sur cette période historique. Ils parlent souvent de la Révolution ou de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Et cette période, c'est une période qui est très, très riche en termes de développement économique, artistique. Il y a eu toutes les expositions universelles à Paris, qui ont vu beaucoup de développement technique, technologique, artistique, la construction de la Tour Eiffel, de beaucoup tous les ponts un petit peu célèbres que l'on connaît à Paris datent de cette époque pour beaucoup, et le développement du métro, etc. Et à côté de ça, tout un côté artistique aussi qui peut être intéressant pour les élèves sur Montmartre et les artistes comme Toulouse-Lautrec, etc. Et les élèves, en général, ne connaissent pas du tout cette époque. Donc ça, c'est pour nous intéressant de leur montrer que c'est une époque qui vaut la peine d'être étudiée et qui peut être aussi très intéressante à avoir en classe.
Et c'est un certain Paris qui sera peut-être mis en avant au mois de juillet, pendant les JO aussi, parce que c'est une période historique de Paris qui représente bien le côté festif de la ville.
Exactement. C'est une période historique, comme je disais, qui a vu la naissance de la Tour Eiffel, et donc c'est toujours un symbole. Les Champs-Élysées aussi, le développement de la vie mondaine sur les Champs-Élysées à cette époque. Donc c'est un Paris qui fait rêver. Un Paris qu'on espère retrouver en juillet pour les Jeux Olympiques.
Absolument. Alors parlez-nous un petit peu des activités en détail, de ce que vous faites avec l'Alliance française autour de cette exposition, et puis ce que vous avez d'autres aussi, parce qu'il y a aussi un mini-festival, on va en parler.
Tout à fait. Donc à Bendigo, avril, mai, juin, c'est vraiment, et même juillet, c'est très très axé sur le français. Donc la ville de Bendigo a même organisé tout un programme de Bonjour Bendigo, avec des activités d'inspiration francophone et francophile. Nous, donc, on participe en organisant, comme je disais, cette activité de développement professionnel pour les professeurs de français, mais aussi on organise une session de conversation en français à la galerie au mois de mai, pour les gens qui seraient intéressés d'apprendre quelques bases en français, mais aussi de découvrir des faits intéressants sur la ville de Paris. L'organisation de Paris en arrondissement avec la forme de l'escargot, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est montré dans l'exposition et qui a déjà intéressé beaucoup de personnes. Donc, on va parler un petit peu de ça. Donc, toutes les personnes qui sont débutantes en français et qui voudraient en savoir plus sur la ville de Paris peuvent venir à cette activité de conversation au mois de mai. Et comme on le mentionnait juste avant, oui, en avril, le week-end du 19, 20, 21 avril, on organise avec le cinéma Star à Eagle Hawk, qui est une petite ville juste au nord de Bendigo, 3 jours de French Film Festival à Bendigo. Ça fait quelques années que ça se fait et c'est toujours très populaire. Donc c'est le vendredi, samedi, dimanche, avec en film d'ouverture D'Artagnan, le même qu'on a eu à Melbourne. Et ensuite, 3 films le samedi et 3 films le dimanche.
D'accord. Et D'Artagnan, qui vaut d'ailleurs, il faut voir la suite. J'espère que la suite est montrée. J'espère que vous montrez les deux épisodes à Bendigo, parce que ça vaut vraiment le coup de voir le 1 et le 2.
Tout à fait. Le 2 est proposé le samedi. Donc, si les gens veulent voir les deux, comme ça, ils peuvent voir D'Artagnan le vendredi soir et Milady le samedi après-midi. Et pour les personnes qui auraient manqué le festival du film à Melbourne, parce que finalement c'est ce soir, le 2 aujourd'hui, c'est la fermeture, la clôture du festival, mais il y a encore toutes les séances encore pendant une semaine, donc on a encore la possibilité de voir les meilleurs films pendant une semaine à Melbourne.
Voilà, le best-of choisi par vous, d'ailleurs les personnes de l'Alliance française de Melbourne, je crois.
Tout à fait, donc ont été choisis les films qui ont très bien marché, mais également l'équipe a gardé 2 autres films en plus, qui est All Your Faces et The Sitting Duck, alors moi je vous avouerai que je ne les ai pas vus, mais j'en ai entendu que du bien, et l'équipe a considéré que ces films étaient vraiment excellents et très informatifs, très éducatifs, et donc ils ont été également conservés pour les séances encore.
Voilà, toutes les informations, je suppose, sont sur votre site internet de l'Alliance française de Melbourne.
Tout à fait, et également si vos auditeurs veulent en savoir plus et avoir toutes ces informations, la meilleure manière c'est de s'inscrire à la newsletter, la Minute de l'Alliance française, qui va partir cette semaine avec toutes les informations des activités à venir. On a aussi une nouvelle session de cours qui commence la semaine prochaine, à la fois en ligne, donc moi par exemple habitant à Bendigo, j'enseigne en ligne, mais aussi à Melbourne bien sûr. Les familles de tous les auditeurs veulent commencer à apprendre le français ou continuer à apprendre le français, ça commence la semaine prochaine pour la nouvelle session.
Absolument. Merci Marion.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Et c'était Papa Outé, un tube mythique qui retrace l'histoire des Stromae. Place à présent au théâtre. Léo Roussel nous fait redécouvrir le petit théâtre de Sydney qui revient après une absence de 3 ans.
L'heure est aux derniers ajustements. Mercredi soir, l'association Le Petit Théâtre de Sydney remonte sur les planches pour la première fois depuis 3 ans et tout doit être parfait pour l'ouverture le 1er mai. Cette dernière semaine, le rythme des répétitions s'est intensifié pour le groupe de passionnés, le seul à proposer une activité théâtrale en français à Sydney. 8 femmes monteront sur la scène du Chipon Street Theatre à compter de mercredi, et ce, pour 9 représentations avec la pièce 8 femmes de Robert Thomas, une pièce qui date de 1958, adaptée en film par François Ozon en 2002, et dont le choix a fait l'unanimité parmi la troupe, comme l'explique Elisa Trandin, présidente de l'association.
Ça a juste commencé d'une soirée entre filles, où on se disait que le théâtre nous manquait, parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu être sur scène depuis 3 ans maintenant. Donc c'est la première fois qu'on remonte sur scène en 3 ans. Et toutes les personnes volontaires s'avéraient être des femmes. Et du coup, on est tombé sur le sujet 8 femmes. La difficulté qu'on a pu rencontrer, c'était retrouver un théâtre, parce que beaucoup ont malheureusement fermé pendant le lockdown. Et quand on a finalement trouvé un théâtre, on s'est lancé tout de suite sur le projet et on est très content de pouvoir remonter sur scène.
Les 8 comédiennes sont encadrées par Anna Jaja, metteuse en scène professionnelle, une bonne connaissance de l'association qui a pris plaisir à travailler sur cette pièce exclusivement féminine dont elle résume l'intrigue.
C'est l'histoire de 8 femmes qui se retrouvent enfermées à cause de la neige pour Noël. Une des filles vient passer Noël et quand elle arrive, il y a un meurtre, le meurtre du père. Donc elle mène l'enquête pour savoir qui a tué le père.
Et à cette pièce, la metteuse en scène n'a pas hésité à apporter une touche de modernité.
Quand on lit la pièce, ça fait un peu « les femmes se disputent entre elles » et « qu'est-ce qu'elles sont dégueulasses avec ce pauvre Marcel ». Et en fait, nous, on a posé un regard plus « oui, mais enfin, c'est lui qui les, quand même les a enfermés dans cette maison hyper loin, qui trompe tout le monde à tout bout de champ, et merde quoi, faut un peu regarder les choses différemment ».
Les comédiennes travaillent sur la pièce depuis le mois de février, sur leur temps personnel, comme l'explique Lucie Brumont, membre du Petit Théâtre, depuis sa création en 2015.
On se voyait une fois par semaine, pendant 3 heures à chaque fois, des répétitions de 3 heures. Et plus récemment, quand on approchait la date de la première, on s'est vu aussi plusieurs soirs par semaine, et des week-ends aussi, pour peaufiner et travailler un peu plus, ouais.
Pour Lucie, ce ne sera pas la première représentation, mais même après plusieurs années passées à monter sur scène, le stress se fait sentir à l'approche du jour J.
À chaque fois, c'est toujours très stressant. Toujours peur de se tromper, de mal faire, de ne pas se souvenir de tout ce dont on doit se rappeler. Et toujours avoir le souci d'être au top. On sait qu'on sait le faire, on sait qu'en répétition on y arrive, mais une fois qu'on est sur scène, voilà, est-ce que ça va être aussi bien? C'est toujours ça, je pense, qui met un peu la pression à tout le monde. Mais la metteur en scène n'arrête pas de nous répéter, il faut surtout vous amuser, c'est ça qui compte et c'est là que ça va le faire.
Et malgré le stress, pour toutes les comédiennes, c'est bien le plaisir de remonter sur les planches qui prend le dessus. Un sentiment résumé par Audrey Heppel, une autre des 8 comédiennes qui monteront sur scène à partir de mercredi.
On se marre en fait. On est toutes, on n'est pas des comédiennes professionnelles, on a tout un boulot à côté, mais on se retrouvait tous les lundis soirs et j'avais toutes les semaines très hâte d'être au lundi soir parce que on rigole bien, on travaille, on bosse, on avance. Et voilà. Et du coup là, on est toutes très excitées d'être pendant 2 semaines sur scène et prendre du plaisir.
Et les représentations du Petit Théâtre démarrent ce mercredi 1er mai à 19h30 au Chipon Street Theatre de Chippendale à Sydney. Elles se poursuivront tous les soirs jusqu'à samedi à la même heure, 19h30. 5 représentations sont également prévues du mardi 7 au samedi 11 mai. Les billets sont en vente sur le site Le Petit Théâtre Sydney. À noter que la pièce convient aussi bien à un public francophone qu'anglophone. L'intégralité de 8 femmes sera surtitrée sur un écran pendant la représentation afin de permettre de suivre une traduction des dialogues.
C'était La vie est belle par Zao de Sagazan. Place à présent un rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi. Deux commissions du Sénat doivent rendre leurs conclusions sur la surfacturation dans les supermarchés, un projet de loi controversé sur l'expulsion des étrangers. Le présentateur et écrivain français Bernard Pivot est mort hier à Paris à l'âge de 89 ans. Et les habitants de la ville de Rafah à Gaza réagissent aux nouvelles frappes après des espoirs de cessez-le-feu. Et voilà, c'est tout pour notre émission de ce mardi 7 mai. Merci infiniment de nous avoir suivis. Très bel après-midi et à très bientôt. Je vous laisse à présent en compagnie de Clarica dans Ce soir je sors. Couleur de lune.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.